Je sais pas ce qui m'a pris d'être aussi positif dans la dernière émission. Non, mais plus jamais ça, hein, c'était horrible. Vous inquiétez pas, aujourd'hui, on change d'ambiance.
Allez du cinéma ! Allez du cinéma,
bonjour ! Bonjour à tous et toutes, et surtout à ceux et celles qui ne sont pas d'accord, aujourd'hui dans le pire podcast cinéma. Le Monsterverse américain revient sur grand écran avec Godzilla X Kong, le nouvel empire. Vous connaissez mon amour pour le lézard géant, vous vous attendez à ce que je vais dire, alors ce sera le gros sujet unique du jour. Dans la version audio, on fera un bilan du box-office de la semaine, et dans la version vidéo, les sorties ciné à ne pas rater en France. Et bien entendu, il y aura la question du public et Drive Away Dolls, le nouveau film d'un frère Cohen parti en solo. Et voilà, c'est le pire podcast cinéma avec vous.
Eh bien, ça ne va pas être dans la poche.
Avant de commencer, merci aux gens qui écoutent cette émission dans son format podcast ou qui la regardent sur YouTube. Quel que soit le choix que vous faites, vous avez du contenu exclusif. Du coup, n'hésitez pas à vous abonner aux deux, que ce soit sur Spotify, sur iTunes ou même sur YouTube, en pensant à bien activer la jolie petite et merveilleuse cloche. Oui, tout à fait. Le pire podcast cinéma, c'est tous les lundis, mercredis et vendredis à 7h du matin pour ne rien rater de l'actualité de le cinéma. Et on commence tout de suite avec le gros sujet du jour.
Respect et robustesse, Caius C+. Alors, les nouvelles sont bonnes ?
Ils sont pas de la dernière marée, les nouvelles.
Moi, je veux du féroce actualité.
Depuis le temps que je parle de ce film et de Godzilla dans l'émission, le jour béni est arrivé, le Monsterverse est en salle, et il faut qu'on en parle. Le Monsterverse, c'est comme ça que s'appelle aux États-Unis l'univers connecté regroupant les films King Kong et Godzilla chez la Warner, et qui a commencé en 2014 avec le Godzilla de Gareth Edwards. On a ensuite eu Kong Skull Island en 2017, Godzilla 2 en 2019, puis la licence a été reprise par le réalisateur Adam Wingard, qui a fait Godzilla vs Kong en 2020-2021, et donc cette année, Godzilla X Kong. Et je vais tout de suite éviter de tomber dans des écueils du style « Ouah, ils ont fait un MCU avec Godzilla, ils peuvent pas s'empêcher de tout penser en termes de licence, ces gros débiles !» Ou encore, à l'opposé, « Godzilla, faut pas le représenter comme ça, ces Amerlocs, ils ont rien compris, cette bande de gros débiles !» Ça termine souvent par « gros débiles », mes exemples, il faut que je renouvelle mon lexique. Parce que ces derniers mois, je me suis bouffé l'intégralité des films Godzilla japonais sortis depuis les années 50. Il y en a 30, je les ai tous vus ou revus, et c'était une sacrée expérience. D'ailleurs, si ça vous intéresse, checkez mon profil Letterboxd dans la description. J'ai fait mon classement, ça y est, mon classement définitif de tous les films Godzilla japonais, de mon préféré à celui que j'aime le moins. Mon préféré étant Giant Monsters All Out Attack. Ce film est dinguissime. Et du coup, après avoir vu tous ces films, je peux pas attaquer les États-Unis sur l'idée de créer une licence autour du personnage de Godzilla. Parce que bah, c'est ce que les Japonais ont toujours fait. Je veux dire, le King Kong japonais, il a eu le droit à ses spin-offs. Mothra, un autre kaiju qui a tourné autour de Godzilla, a eu droit à énormément de films en solo, et ce jusqu'en 1998. Le principe d'univers interconnecté autour des kaiju, il a toujours existé. Il a existé du côté japonais. Et du coup, oui, ça ressemble aujourd'hui à un MCU d'un autre temps, mais non, c'est quelque chose qui a toujours été palpable. Et idem pour le côté Godzilla, il faut pas le représenter comme ça, parce que Godzilla a été représenté de dizaines de manières différentes à chaque fois par des réalisateurs. C'est-à-dire, le premier Godzilla original de 54, c'est pas le même Godzilla que celui qu'on retrouve en train de taper des danses de la victoire dans Invasion of Afro Monster. Idem, c'est pas le Godzilla qu'on retrouve dans All Monsters Attack, qui fout des patates de forain à son gosse entre deux leçons de développement personnel. Ni celui d'ailleurs de Giant Monster All Out Attack. Non, parce que là, il a les yeux blancs, il est assoiffé de sang. C'est encore autre chose. Par contre, si on en reste au Godzilla japonais, on peut préférer certaines versions à d'autres. Personnellement, le Godzilla qui me parle le plus, c'est plutôt celui du milieu des années 80 à ce milieu des années 90, qui était extrêmement chargé politiquement, qui était très violent, plutôt que celui des années 60, qui était beaucoup plus cartoon à destination des enfants. Et de même, j'ai du mal avec les Godzilla américains, parce que je parlais de choses chargées politiquement, mais même dans les films japonais les plus cons, eh ben, il y a toute la dimension traumatique post-nucléaire. Il y a toute l'idée du travail journalistique vis-à-vis des corps armés complètement stupides. La thématique la plus récurrente des films Godzilla originaux, c'est le poids du peuple face au poids des institutions. C'est chargé de tout ça, Godzilla. Et aux US en 2014, ils ont décidé d'évacuer ça en 3 secondes. Ils se sont dit non, nous, ce qu'on va faire, c'est esthétiser à mort l'armée américaine qui va envoyer des bons gros missiles dans le bon gros lézard. Forcément, ça peut pas coller. C'était déjà d'ailleurs le problème du Godzilla de 98 de Roland Emmerich, où t'avais le Godzilla qui se prenait 12 000 balles dans la gueule. Non, qu'est-ce qui était nul, ce film? Il était tellement nul que dans deux films japonais différents, ils se sont foutus de la gueule de ce long métrage là, que ce soit dans, je vous parlais de Giant Monster All Out Attack, ils se foutent de la gueule dans l'intro en disant non mais il a jamais existé ce Godzilla là, et ensuite dans Godzilla Final Wars vraiment il se fait péter la gueule en 3 secondes. C'est deux très bons films, voyez-les. J'aime le Godzilla politique, le Godzilla dont la présence questionne, le Godzilla qui interroge les humains sur leur comportement passé et dont la force destructrice est vecteur de messages suivant les époques. Et comprendre ce message de travers, c'est risquer de faire absolument n'importe quoi. Et hélas, c'est un peu ce qui a été décidé par Adam Wingard, le nouveau gardien du Monsterverse, à savoir faire absolument n'importe quoi. Et du coup, après une longue intro, on y arrive. Godzilla X Kong, le nouvel empire. He won't be alone. Bon, qu'on comprenne bien la base déjà, c'est qui Adam Wingard et c'est quoi son Godzilla? Déjà, Adam Wingard, c'est un gros réalisateur de merde. Ouais, non, je prends des pincettes depuis tout à l'heure, mais là, il va falloir dire les termes. Outre sa courte carrière dans le cinéma d'horreur indépendant, que ce soit avec sa participation aux différents films VHS ou encore son film d'horreur Your Next, Adam Wingard, c'est le type qui a repris en 2016 la licence Blair Witch afin d'en faire une suite qui était absolument minable. C'était une saloperie infâme bourrée de jumpscare putassier et qui allait exactement dans le sens opposé de ce que faisait l'original. Et puisqu'il avait encore envie de défoncer des licences, en 2017, c'est lui qui a réalisé l'adaptation du manga Death Note pour la plateforme Netflix. Une nouvelle fois, une énorme erreur de la part des Américains pensant qu'ils étaient capables d'adapter un tel chef-d'œuvre à l'écran et qui s'est avéré assez ridicule. Mais là, la Warner s'est dit « Hey, il est fort ce Yes Man là, il prend les japonaiseries, il met des néons partout et comme ça il les fait aux États-Unis. On devrait lui refiler Godzilla vs Kong. » Et c'est ainsi qu'en 2021, on a eu le droit à Godzilla vs Kong, bouillie visuelle absolument dégueulasse qui prétendait faire la rencontre entre deux monstres sacrés et qui s'est perdu dans un scénario ultra confus de monde au centre de la Terre et dont l'action brillait pas par sa grande qualité. Le problème principal de Wingard, et c'est un truc qui revient avec son nouveau film Godzilla vs Kong là, c'est qu'il ne sait pas filmer des monstres. Au contraire, par exemple, d'un Guillermo del Toro, qui, quand il fait Pacific Rim, passe son temps à te rappeler le gigantisme des créatures que t'as devant toi, lui, il s'évertue à tout le temps les filmer comme si elles faisaient 1m80. Et du coup, j'ai beaucoup plus l'impression de regarder une cinématique de jeu vidéo avec beaucoup trop de budget qu'un véritable long métrage qui a conscience de ce qu'il est en train de filmer. On met pas en scène des créatures pareilles sans les remettre en contexte de l'espace qu'elles occupent. C'est des créatures immenses, destructrices. La destruction qu'elle provoque doit être au centre du récit. Et chez Wingard, c'est jamais le cas. Et vas-y que je te saute dessus. Non, c'est moi qui te saute dessus. Attention, une autre créature pourrie en CGI arrive. Je déprime. Je déprime à mort. Et vous savez ce qui me déprime le plus ? C'est que Wingard et moi, on aime les mêmes films Godzilla. Dans un échange récent entre lui et Takashi Yamazaki, qui est le réalisateur de Godzilla Minus One, ils ont fait une discussion entre Adam Wingard et Yamazaki. Putain de merde, le génie qui parle aux débiles. C'est un moment incroyable. Adam Wingard, dans cette discussion, a cité ses films Godzilla préférés. Et il a dit Godzilla vs. Edora et Godzilla vs. Destroya. Et c'est des super films! Godzilla vs. Edora, c'était un film qui était beaucoup trop en avance sur son époque, sorti au début des années 70, le seul film réalisé par Yoshimitsu Banno, avec des idées de réal psyché au milieu complètement folle, une critique de la pollution ambiante, c'est génial Godzilla vs. Edora. Et Godzilla vs. Destroya, c'est la fin de la période Heisei en 1995, un film qui est rempli d'ambitions horrifiques, de visions d'apocalypse, avec de l'émotion à l'intérieur, c'est un de mes préférés, tout film Godzilla confondu. Et ça me tue que ce type-là cite parmi ses inspirations les meilleurs films Godzilla et que le résultat en face, ce soit quelque chose qui singe le pire de ce qu'a été Godzilla dans les années 60. Je déprime. Je déprime, c'est le mot, déprimé. De quoi ça parle ce nouveau film ? Alors, déjà dans le Monsterverse, King Kong, il est tout déprimé. Il vit au centre de la Terre, mais il se sent un peu seul. Il aimerait bien trouver une famille. Oana, tout ça, vous connaissez. Et de son côté, Godzilla est devenu un mercenaire qui tabasse des titans dès qu'il y en a un qui a l'affront de se pointer sur Terre. Et sinon, bah, il roupille en boule au milieu du Colisée à Rome. Et un jour que King Kong remonte à la surface parce qu'il a une carie à se faire traiter, c'est vraiment le scénario du film. Putain, je déprime ! La gamine télépathe qui a été récupérée dans le film précédent détecte une anomalie qui se trouve au centre de la Terre, et du coup, une bande d'humains et King Kong s'y rendent, ils vont creuser le centre de la Terre pour trouver encore un autre monde qui renferme plein de singes géants pas super sympa. Bon, il y a déjà tellement de trucs qui vont pas, je sais même pas par où commencer. Déjà, on en revient à ce que je disais tout à l'heure, les monstres ne sont pas traités comme des monstres. Ils sont traités comme des formes humanoïdes qui ne portent en eux aucune dimension politique. Je veux dire, ils se battent, ils roupillent, ils ont des caries. C'est pas des monstres géants, c'est des animaux de compagnie un peu encombrants. Ensuite, toute cette idée de nouveau monde à découvrir, c'est vraiment la représentation de creuser encore plus le fond. C'est-à-dire, ok, dans le film précédent, on te dit, il y a un monde sous la Terre, mais imagine, il y a encore un autre monde sous le monde sous la Terre. Qu'est-ce qu'on va bien y trouver? C'est très artificiel, c'est vraiment du scénario prétexte. Et ça permet juste de traiter la thématique qui va parcourir tout le film, à savoir réussir à trouver sa famille et se sentir à sa place dans le monde. À part cette thématique très enfantine, il n'y aura pas grand chose de plus dans le fond du long métrage. Et d'ailleurs, je critiquerai pas toute la dimension de gamine télépathe, parce que bah, le côté gamine télépathe, c'est littéralement le fil rouge de tous les films Godzilla de 85 à 95, donc non, ok, on accepte et on passe. Le vrai problème, c'est que ça raconte jamais rien de très intéressant. Même les personnages humains sont insupportables. Par exemple, je me pose la question de pourquoi est-ce qu'ils ont gardé dans les personnages principaux un type qui anime un podcast complotiste. Voilà, ça m'interroge sur quelle est la cible de public américain visée par ce film? Tous les humains sont des archétypes, jusqu'au personnage de vétérinaire qui écoute en boucle de la musique des années 80. Ce sont des formes racoleuses faites pour toucher le plus large public possible, sans jamais rien construire réellement. Ce sont pas des personnages qu'on regarde, ce sont des volontés marketing. Et ça, déjà, ça m'énerve pas mal. Et quand on en arrive aux monstres en eux-mêmes, les nouveaux singes, par exemple, bah, y a jamais rien d'impressionnant. Le grand méchant, c'est juste un singe qui a une armée. Je veux dire, merci, monsieur, je copie la planète des singes. Ils t'ont quand même fait un bébé singe, ce qui est la pire idée du monde. Et ça, toutes les personnes qui ont déjà vu les bébés Godzilla le savent. Tous les pires films Godzilla, c'est ceux où il y a Minizilla. C'est horrible, ce personnage. Bah, quand ils le font avec King Kong, c'est pas mieux. Vraiment, les gamins créatures, c'est juste le symbole que c'est des films pour enfants et plus des films pour adultes. Et donc, encore une fois, ça me déprime. Et quand ils décident de ramener d'autres kaiju, bah, c'est des versions dévitalisées. Par exemple, dans le film, il y a Mothra, qui est, je pense, mon kaiju préféré. C'est une grosse mythe sauveuse de l'humanité. Je l'aime trop, elle est trop mignonne. Mais je hais son design dans le Monsterverse. On dirait qu'ils l'ont body shame, qu'ils ont dit non, elle est trop grosse, la mythe. Ce serait mieux si elle ressemblait à une guêpe absolument dégueulasse. Et en plus, ils ont viré tout le lore qui lui est associé, hein. Je veux dire, de la musique jusqu'aux deux gamines jumelles à l'île des enfants, etc. Tout cela n'existe plus. Mais quitte à être débile, soyez débile jusqu'au bout. Reprenez tout le lore. C'est juste un personnage parmi tant d'autres pour racoler. Et à force, moi, de me taper toutes ces idées marketing qui se succèdent, bah, je m'ennuie. Voilà, je m'ennuie parce que je rentre jamais vraiment dans le film. Il dure moins de 2 heures et j'arrive à m'emmerder alors qu'il y a des monstres géants à l'écran. Parce que je vois pas des monstres géants, je vois des images sans âme. C'est déprimant. Ouais, le mot déprimant va être énormément cité dans cette émission. Mais là, on a parlé que de l'histoire, on n'a pas encore abordé la question de l'image. L'image qui, dans ce film, va du pire au passable. Pire parce que, bah, y a toujours le même problème, il sait toujours pas filmer des putains de monstres. On avait vu l'image dans le trailer, mais ce plan où t'as Godzilla et King Kong qui courent ensemble, on dirait deux acteurs d'1m80 devant un fond vert. Ce qui est paradoxal quand même, c'est que, à l'époque des vieux films Godzilla, c'était littéralement des mecs d'1m80 filmés devant des fonds pourris qu'on essayait justement de rendre un peu gigantesques avec notre caméra. Là, ils font la démarche inverse. Ils ont des créatures gigantesques, mais ils font tout pour les filmer comme si c'était des petits bonhommes. C'est l'opposé même de la notion de film de kaiju. T'as des gros plans dans tous les sens. T'as jamais un plan d'ensemble. T'as jamais un putain de plan d'ensemble. Ce serait bien juste un plan d'ensemble, histoire de voir un petit peu les rapports d'échelle, parce que dans les films de kaiju, la notion de rapport d'échelle, c'est quand même le sujet principal. Ce n'est jamais présent ici. Et tout ce que je me dis en regardant ces FX gros plans, là, c'est putain, qu'est-ce que ça va mal vieillir. C'est-à-dire que là, déjà, c'est pas top, mais dans 5 à 10 ans, ce sera juste inregardable. Oui, mais il y a le design rose de Godzilla. Oui, mais Adam Wingard, il aime les néons. Voilà, il en a même mis sur son lézard géant. Il a tuné Godzilla. Voilà tout ce qu'il a fait. Après, il reste quelques scènes d'action un peu rigolotes. Oui, il faut le dire. Ça renoue avec justement des vieux films Godzilla. Je veux dire, quand t'as Godzilla qui chope King Kong et qui lui fait une souplexe au milieu des pyramides, oui, c'est marrant. C'est moins marrant que dans le Godzilla vs Kong original où il essayait de lui faire bouffer un arbre comme ça. Mais non, allez, c'est marrant. Le problème, c'est qu'on est juste en train de faire du nivellement par le bas, là. C'est-à-dire que oui, effectivement, c'est moins pire que, bah tiens, j'ai noté plus durement sur Letterboxd le salaire de la peur Netflix 2024. Mais c'est un problème si on commence à réfléchir comme ça. Parce que ça reste sacrément pété. Et il faut le dire, c'est pas des bons films à aucun moment. Mais ça marche. Les gens vont en salle le voir. C'est déjà un énorme succès aux États-Unis. Et ça va être mon dernier point parce que encore une fois, ça me déprime. Je vais même être plus radical que ça. Je dis ça me déprime depuis le début. Son succès ne me déprime pas. Il m'effraie. On a vu le succès à l'international de Godzilla Minus One. On le voit aussi avec ce film-là. Le public aime les films de monstres géants. C'est un genre qui est réclamé et qui fonctionne dans les salles de cinéma. Et j'ai le sentiment, notamment du côté du public américain, vu le succès de ces films-là et les retours positifs à chaque fois, qu'il n'y a jamais de prise de recul sur ce que sont ces films-là et à quel point ils sont différents. Pour la majorité, j'ai le sentiment qu'ils se disent « un film de gros monstres est égal à un autre film de gros monstres, sans distinction ». Et non, Minus One n'est pas Godzilla X Kong. Oui, il y a le grand spectacle, oui, il y a les monstres géants, mais il n'y a pas le même propos et surtout pas le même respect vis-à-vis du public. Minus One essayait de traiter la question du sens du sacrifice, du traumatisme encore lié à la Seconde Guerre mondiale au Japon. Et puis, de son côté, Godzilla vs Kong prend ses spectateurs pour des enfants débiles. Et à vouloir tout mettre sur le même pied d'égalité, le caca finit par s'en sortir grandi et les merveilles par baisser. Et le cinéma dans tout ça, le cinéma, lui, y patauge. Et je dis pas qu'il faut imposer une sorte de Nutri-Score sur les films, c'est pas ce que je suis en train de dire, c'est pas du snobisme. Ce que je suis en train de dire, c'est que, de mon côté, entre solliciter un Américain qui comprend rien à la licence Godzilla et fait des films pour enfants attardés, et un Japonais qui lui comprend tout l'héritage de 30 ans de films Godzilla, qu'est-ce que je dis 30 ans, de 70 ans de films Godzilla, et qui essaye de son côté de renouveler la licence avec des idées nouvelles, bah encore une fois, je suis désolé, mais pour moi, le choix est très vite fait, et il n'est pas américain. Et si tu entends ça, c'est que tu écoutes la version podcast de l'émission. En effet, dans la version vidéo, on est en train de parler des sorties au cinéma cette semaine. Mais nous, de notre côté, on va se faire un petit point sur le box-office qu'est qui marche dans les salles de cinéma. On va commencer par un truc qui est pas du tout étonnant, soyons très honnêtes, mais Kung Fu Panda 4 est en tête. C'était la grosse sortie de la semaine dernière. Avec avant-première, il ramasse 655 000 entrées sur 696 copies. C'est un très très bon démarrage. Et c'est pas très étonnant parce que les gamins avaient pas grand-chose à bouffer ces dernières semaines. C'est un peu le film événement pour réussir à les faire retourner en salle et visiblement ça fonctionne. Si on veut comparer au film précédent par contre, bon, c'est un moins bon démarrage à 100 000 près que les deux premiers. Les deux premiers c'était il y a plus de 15 ans, donc oui, ok, l'époque était différente, mais par contre c'est un meilleur démarrage que le troisième opus. Et c'est surtout un film qui met une grosse distance à tous ses concurrents cette semaine, assez terrible. En deuxième position par exemple, il n'y a pas de vague, le film où je vous avais parlé dans le milieu scolaire avec François Civil, qui fait 120 000 entrées sans avant-première sur 330 copies. C'est pas énorme, mais ça reste quand même pas mal comparé au suivant. Parce que le suivant c'est La Promesse Verte avec Alexandra Lamy qui fait 107 000 entrées sans avant-première sur 528 copies. Il fait un moins bon score avec 200 écrans en plus. Est-ce que ça veut dire que François Civil supérieur à Alexandra Lamy ? En tout cas, il y a le public qui s'intéresse un peu plus à l'un qu'à l'autre. Dans les autres sorties de la semaine dernière, il y a Le Jeu de la Reine qui était passé par le Festival de Cannes avec Jude Law et Alicia Vikander qui galère. Voilà, il galère, il fait 72 000 entrées sur 335 copies, c'est vraiment très peu. Mais ça reste toujours plus que la plus grosse plantade de la semaine dernière, à savoir le film Paternel avec Grégory Gadebois qui joue un père qui a un enfant avec Géraldine Nakache et qui lui a fait 15 000 entrées sur 183 copies. Là, c'est une énorme douche froide. Vous le constatez, c'est une toute petite semaine. La question qui se pose est donc, est-ce que les anciennes sorties se débrouillent un peu mieux que les nouveaux films ? Bah, la vraie surprise, c'est que tous les films perdent des spectateurs cette semaine. C'est normal, hein, c'est le schéma logique. Hein, chaque semaine, on fait moins de spectateurs que la semaine précédente. Mais il y en a un qui en gagne. Oui, le film italien Il reste encore demain gagne 12% de spectateurs cette semaine alors que tout le monde baisse autour. Il en est à un total de 342 000 entrées, ce qui va devenir un vrai gros succès italien, sûrement un des plus gros de ces dernières années. À côté, Dune 2 continue à faire toujours des entrées, il fait plus de 228 000 entrées, il en a un total de 3,6 millions, il va aller chercher les 4 millions sans difficulté, et Une Vie avec Anthony Hopkins toujours fait encore plus d'entrées, plus 72 000 entrées, il en est à un total d'1,4 million. Heureux gagnant aussi la comédie avec Fabrice Eboué et un tas d'autres gens est un joli succès qui en est à 357 000 entrées, et comparé aux autres films sortis ces dernières semaines, bah c'est un peu la chute libre pour les autres, hein. La comédie Karaoké ou Hors Saison de Stéphane Brisé avec Guillaume Canet font tous les deux moins 50%. Ils en sont à un total entre 150 000 et 190 000. Je m'étonne de voir Cocorico, la comédie avec Clavier et Didier Bourdon, toujours en salle. Voilà, on en est à 8 ou 9 semaines. Et il fait encore plus 29 000 entrées. Il en est à 1,9 million. Je pense qu'ils le gardent en salle seulement parce qu'ils attendent qu'il ait dépassé les 2 millions d'entrées pour que ça fasse un joli score à communiquer. Ma tristesse, par contre, c'est de voir le film québécois Vampire humaniste cherche suicidaire consentant avoir un cumul à 29 000 entrées, ce qui est vraiment trop peu pour la qualité du film. Si vous avez l'occasion de le rattraper, n'hésitez pas. Aux États-Unis, j'en parlais tout à l'heure, le démarrage de fou furieux, c'est Godzilla X Kong qui fait 80 millions sur son territoire, mais 195 millions à l'international. C'est énormissime, le film va être un très 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 joli succès. Et en face, Ghostbusters cumule 108 millions à l'international, il a dépassé son budget, mais il est toujours pas rentable, ça risque d'être un petit peu compliqué pour ce film. Et à côté, bon, moi, je vais pas vous citer tous les gros films qui marchent, hein, vous en doutez, Dune 2, il en est à 627 millions, Kung Fu Panda 4 en est à 346 millions, les gros blockbusters blockbusterise, comme le dit le verbe que je viens d'inventer. Il est probable que la semaine prochaine, en termes d'entrée, soit un peu plus propice à rigoler tous ensemble, nous verrons cela, et en attendant, on avance.
Les nouvelles n'étaient pas très fraîches, en effet.
Il est l'heure de la question du public. Vous le savez, à chaque émission, je poste une story sur Instagram. Suivez-moi sur Instagram où je vous dis, vous avez une question sur l'actualité? Et si jamais vous en avez une et que j'ai une réponse, eh ben, je la sélectionne et elle passe ensuite dans l'émission. Allez me suivre directement sur Instagram, c'est plus simple, le lien est en description. Et aujourd'hui, la question nous vient de Wan Le Chin, qui demande, accusé de plagiat par Vincent Dietschy, le film Sous la scène de Netflix peut-il vraiment être interdit? Non, je pense pas. Alors, récapitulons pour les gens qui ont pas suivi l'affaire. Une affaire de plagiat qui a même eu le droit à une double page dans Le Monde la semaine dernière. Preuve que c'est visiblement pas si anodin que ça. D'un autre côté, vous prenez la notion de plagiat, vous ajoutez cinéma français et Netflix au milieu. Ah, vous avez de quoi de faire un sujet pas mal piquant. Oui, pas mal piquant. Enfin, pas mal piquant pour ceux qui sont pas habitués au piment. Moi, je trouve ça tout doux comme affaire. Ouais, ma métaphore filée est un peu pourrie. Cet été sur Netflix sortira le thriller Sous la scène, réalisé par Xavier Janss. Xavier Janss qui a fait Farang comme précédent film et qui avait fait aussi Cold Skin ou il y a quelques années Frontières. Et je vais vous lire le pitch de Sous la scène, histoire qu'on ait tous la même base. Été 2024, Paris accueille pour la première fois les championnats du monde de triathlon sur la scène. Sophia, brillante scientifique, est alertée par Mika, une jeune activiste dévouée à l'écologie, de la présence d'un grand requin dans les profondeurs du fleuve. Elles n'ont d'autre choix que de faire équipe avec Adil, commandant de la police fluviale, pour éviter un bain de sang au cœur de la ville. Pitch opportuniste pour sa période et idée de série B vénère, le truc de Sous la scène est très très simple. Il y a un gros requin dans la scène qui risque de manger les sportifs. Vite, 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 il faut l'arrêter. Et personnellement, le projet me hype vraiment pas mal. J'aime beaucoup l'évolution qu'a Xavier Janss ces dernières années depuis qu'il a travaillé sur la série Gangs of London. Vraiment, je trouve ça super intéressant où il se dirige et je me dis qu'il peut se saisir d'un tel sujet et en faire un truc vachement bien. Mais tout n'est pas rose au pays des gros poissons puisque le film est accusé de plagiat donc par un autre réalisateur français qui s'appelle Vincent Dietschy vis-à-vis de son film qui s'appelle Silure. Un silure, pour ceux qui le savent pas, et personnellement je le savais pas, j'ai aucune notion de pêche, c'est un gros poisson d'eau douce carnassier et en 2014, le réalisateur a déposé une demande d'aide au CNC pour un film dont le pitch est le suivant. Une jeune femme policière, plongeuse à la brigade fluviale de Paris, se retrouve confrontée à un phénomène naturel inédit, incarné par un gigantesque silure, terriblement agressif et tueur d'êtres humains. Tandis que le monstre sème la panique dans la capitale, menaçant la politique du maire à quelques jours du choix de la ville qui organisera les Jeux Olympiques, l'héroïne se retrouve en première ligne pour affronter cette figure du mal d'un genre nouveau. Oui. On peut pas nier qu'il y a des similitudes entre les deux projets. Et si j'en crois l'article du Monde, Vincent Dietschy aurait discuté avec un gros patron d'agence du financement de son film au Festival de l'Alpe d'Huez de 2015. Même année et même endroit où les producteurs de Sous la scène se sont lancés dans leur projet de film de requin. La coïncidence est quand même dingue, mais en l'état, ça reste difficile à prouver. Ça n'a pas empêché le réalisateur Vincent Dietschy de porter plainte contre les producteurs de Sous la scène et contre Netflix, se donnant donc rendez-vous au tribunal judiciaire de Paris le 22 avril. Et on va être assez rationnel sur ce sujet deux secondes, hein. Ça a vraiment très 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 peu de chances d'aboutir. Pire que ça, des affaires de plagiat dans le cinéma, il y en a tout le temps. Et je m'interroge sur le fait que celle-ci en particulier prenne une double page dans Le Monde la semaine dernière. C'est-à-dire avec tout un storytelling en plus associé, la première phrase de l'article du Monde, c'est raconter comment Vincent Dietschy faisait de la pêche quand il avait 4 ans. De là à se dire que Le Monde a peut-être voulu se payer Netflix et défendre en comparaison le cinéma français, il y a qu'un pas, que je vais pas franchir, mais il y a qu'un pas. Qui plus est, l'idée de base, elle est pas franchement révolutionnaire. Et je parle de l'idée de Sous la scène aussi, hein. C'est-à-dire que, oui, on est dans une période où arrivent les Jeux Olympiques, où on sait qu'on veut mettre des sportifs dans la scène, se dire, attends, si on faisait un film d'horreur où pendant qu'il y a les sportifs, il y a aussi un requin. Là, c'est une idée à la con. T'ajoutes une parabole écologiste pour rester dans le délire de l'époque, ça reste quand même basique tout basique. Ça m'empêche pas d'avoir très envie de voir le film, mais c'est pas l'idée du siècle. Et c'est pour ça que je pense que tout ça a très peu de chances d'aboutir. De toute façon, c'est même précisé dans Le Monde, hein. Ils disent clairement que c'est une procédure symbolique, c'est la bataille justement entre films d'auteurs français indé qui galèrent à se financer face aux grosses machines américaines. J'aime pas défendre Netflix, hein, mais on dit grosses machines américaines. bah, Sous la scène, c'est un film français. Et la majorité des techniciens qui ont bossé sur le film, c'est des techniciens français. C'est cool qu'on fasse bosser des techos français sur des gros thrillers de la sorte. Donc oui, c'est assez politique à mon avis, et c'est donc beaucoup de bruit pour pas grand-chose.
Pour le cinéma, Monsieur Leblanc, pour le grand écran, pas pour la petite lucarne.
Allez, un film pour finir et on remballe. Vous le savez, à chaque fin d'émission, je termine en vous parlant d'un film que j'ai apprécié ou non, et je parle beaucoup trop vite. Pourquoi je fais ça? Parce que... Putain, mon Dieu. Dans l'émission de vendredi, c'est pas moi qui prends la parole, vous le savez, c'est vous. Le vendredi, c'est vous qui envoyez un audio d'environ 3 minutes à l'adresse mail lepirepodcastciné@gmail.com. Vous parlez de ce que vous voulez, tant que vous en parlez environ 3 minutes. J'écoute vos audios et je les passe dans l'émission. N'hésitez pas à envoyer des trucs, j'ai hâte de pouvoir vous écouter. Et moi, de mon côté, aujourd'hui, je vous parle d'un autre film qui sort en salle cette semaine en France, qui était attendu par toute une partie de la communauté cinéphile, puisque c'est un des deux frères Cohen qui l'a réalisé, Drive Away Dolls.
Don't call me Curly.
And your name Curly?
My name is Curly. We just met. It's too familiar.
Ça fait maintenant 6 ans que les frères Cohen ont décidé de parcourir un petit peu des chemins solitaires, séparant donc un duo qui œuvrait depuis les années 80 et nous avait fourni un paquet de chefs-d'œuvre. Joel Cohen a réalisé de son côté pour Apple TV The Tragedy of Macbeth. Je sais pas si vous l'avez vu, c'est un film avec une richesse visuelle certaine, mais qui était quand même sacrément chiant. Vraiment, j'avais trouvé le film mou et aussi vain que sa démarche, j'avais pas complètement été séduit. Et en face, Ethan Coen, après avoir fait pour A24 un documentaire sur Jerry Lee Lewis, a décidé de faire donc son premier long-métrage de fiction en solo, Drive Away Dolls. Et je suis pas certain d'avoir compris le projet. Plus je vois des films d'eux en solo, plus je me dis reformez-vous, en fait, refaites un truc ensemble, hein. C'est comme ça que ça marchait, l'alchimie. Drive Away Dolls, ça raconte donc l'histoire de deux copines lesbiennes qui vont partir en road trip à travers les États-Unis sans savoir que dans le coffre de leur voiture de location se trouve une mallette que des criminels ont très envie de récupérer. Et donc ça va alterner entre course-poursuite, expérience sexuelle, quiproquo, tout ça dans un long métrage qui, sans son générique, dure tout pile 1h15. Ouais, c'est vraiment très très court. En sortant du film, je me suis fait la réflexion que j'avais l'impression d'avoir regardé deux films en un. Le premier film, c'était un film des frères Cohen, comme j'ai l'habitude de les voir. Et le deuxième, c'était un film réalisé par un gamin de 12 ans qui regarde en boucle American Pie en prenant de la MD. Et même si sur le papier, l'idée est séduisante, en voyant le résultat, je me suis quand même juste dit... Morph. C'est vraiment un film paradoxal, comme je disais. C'est-à-dire que, notamment, j'aime bien dans l'écriture certains travails du dialogue. Il y a des punchlines qui sont vraiment bien sentis et c'est associé à une réalisation particulièrement soignée. Il y a vraiment des moments d'une douceur dingue où on va te faire des jolis travelling, on va te faire des top shots vraiment bien sentis. Et tout ça associé en plus à une photo assez sérieuse. Et dans le même film, il y a les trucs les plus vulgaires, moches et cartoon stoner idiot que j'ai vu depuis très 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 longtemps au cinéma. Le montage m'a rendu vraiment ouf. Mais vraiment, les transitions dans ce film, c'est le pire de ce qu'on faisait au début des années 2000. C'est-à-dire, vous savez, avec le cadre qui tombe sur un autre et donc ça fait une transition en mode gag, l'image qui tourne sur elle-même. À un moment, il y a une transition cri de jouissement. Ça fait des blagues de cul en permanence. Vraiment, j'avais l'impression de regarder le pire des DTV trouvé dans un bac vidéo futur en 2001. Avec des séquences vraiment American Pie. Du style, hey, imagine si le chihuahua il essaye d'enculer le criminel mort. C'est vraiment ça le film. Et c'est sans compter plusieurs passages dans le film avec des visions psychées inexplicables d'une laideur dingue, genre avec un morceau de pizza en 3D pixelisé qui tourne autour des logos du Parti Républicain et du Parti Démocrate. Bref, ce sera expliqué plus tard, hein, mais vraiment, tu regardes le film, tu te dis, attendez. C'est ça le MacGuffin que vous êtes en train de me construire? Vraiment, c'est le film de l'anti-MacGuffin. C'est un film qui essaye de se moquer d'un genre qu'il est en train d'utiliser. Le problème, c'est que si tu veux te moquer, bah tu assumes ton genre de parodie, en fait. Et vu qu'il a le cul entre deux chaises, il alterne tout le temps entre le n'importe quoi et le très sérieux. C'est-à-dire que c'est vraiment un film qui va te hurler à la tête « chat, 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 chat » pour ensuite te lancer du funkadélique et parler de leurs problèmes d'attachement. La première scène du film, c'est Pedro Pascal qui se fait tuer avec un tire-bouchon. C'est vraiment la première scène. Et après, il y a une scène de cul. Et après, c'est beaucoup plus sérieux et ça parle de... Mais qu'est-ce que c'est que ce film? J'ai vraiment eu l'impression à plusieurs instants de pas avoir la grille de lecture pour comprendre le film, d'avoir l'impression qu'on a pris un film drame A24 très sérieux, qu'on a enlevé des scènes au montage pour rajouter le pire des années 90 de temps en temps. Ça n'a aucun sens. Mais j'ai pas détesté. J'ai pas détesté parce que bah, j'aime les drames A24 et que j'aime les trucs nazes des années 90-2000. Et que là, bon, ok, quand tu regardes le film, c'est laid, c'est extrêmement laid. Les transitions au montage me donnent envie de tabasser le monteur du film. Mais je reste assez fasciné par l'expérience. Ouais, c'est vraiment une expérience. C'est vraiment ça, c'est Orny the Movie A24 Edition. Clairement un projet bicéphale alors que le gars est tout seul. Vivement qu'il retrouve son frère, parce que ensemble ce sera quand même vachement mieux. En fait, si vous voulez voir un projet lesbien vénère ultra réussi, allez en salle voir Love Lies Bleeding de Rose Glass. Quoi ? Il peut encore sortir en France ? Aïe ! Aïe aïe aïe.
Wanted or something?
Oh no, they're not trouble at all.
I'm gonna help you break a big murder case.
That is about the dumbest thing I've ever heard. And I'm a cop.
C'est ainsi que se termine cette émission du pire podcast cinéma. Merci de l'avoir suivi jusque-là. J'espère que vous allez bien et que vos singes géants et vos lézards géants se portent bien eux aussi. Je l'attendais, cette émission a été notée dans mon planning ce jour-là. Il faudra parler de ce film et ouais, bah on en a parlé. C'était rigolo. Maintenant, on va prendre 24 heures de pause et on va se retrouver vendredi parce que ce sera plus simple. Allez, pour l'instant, c'est terminé. Mais si vous en voulez encore...
Non mais oui, bien sûr, mais c'est fini cette histoire-là.
Par contre, la prochaine fois, avec plaisir.